Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Dans les sondages qui a plus d'un an de l'échéance sont toujours à prendre avec une certaine prudence, elle est toujours solidement installée comme première concurrente d'Emmanuel Macron et avec pas mal d'avance sur ses rivaux les plus proches pour cette place d'incarnation de l'alternative. Et pourtant, au Rassemblement National, le doute est de mise. Marine Le Pen, c'est d'elle qu'il s'agit. Est-elle bien la personne de la situation? N'est-elle pas condamnée par un plafond de verre et par le souvenir de son débat de l'entre-deux-tours raté en 2017. Sa stratégie moins à droite est-elle la bonne? Sa nièce, Marion Maréchal, a ses partisans. Marine Le Pen est-elle indiscutable au Rassemblement National? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous ce soir. Dans ce studio, nous sommes avec Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et auteur de nombreux livres, dont « Les droites extrêmes en Europe au seuil en 2015 », coécrit avec Nicolas Lebourg, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Nicolas Lebourg.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste de l'extrême droite et du fascisme, chercheur du CEPEL, c'est le CNRS à l'Université de Montpellier. Et également avec nous en studio, Louis Osalter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne, auteur du livre Marion Maréchal, le fantasme de la droite, qui vient de sortir le 23 septembre, en fait, aux éditions du Rocher. L'histoire du mouvement que par facilité j'appellerais lepéniste est jalonnée de discussions sur la ligne du parti, et parfois de contestation de l'autorité. Au temps de la fronde maigrettiste, par exemple, Jean-Marie Le Pen avait dit un jour dans un discours « Il n'y a qu'un numéro au Front National, et c'est le numéro 1 ». Est-ce que c'est toujours le cas, Jean-Yves Camus?
Je pense que c'est toujours le cas, sauf si, hypothèse qui n'est pas complètement d'école, Marine Le Pen décidait, pour prendre de la hauteur et se positionner davantage en présidentiable, empruntant au gaullisme, de sortir et de laisser les rênes du parti à quelqu'un d'autre. C'est une hypothèse plausible, mais dans des cas comme ça, ça ne résulterait pas d'une fronde. Parce que le problème de la fronde, en un terme, de la discussion des lignes, c'est que il faut qu'il y ait un concurrent. Il faut qu'il y ait un concurrent déclaré. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui descende dans l'arène au moment d'un congrès, prévu pour 2021, et qui se lance. Or, je vois pas, moi, pourquoi Marion Maréchal irait au clash avant 2022, au risque d'essuyer une défaite qui serait certainement honorable, mais qui n'en serait pas moins une défaite.
Elle l'a dit, Louis Osalter, Marion Maréchal, le fonctionnement des partis actuels ne l'intéresse pas. Elle n'est pas intéressée par cette position, par avoir une position de pouvoir au sein du Rassemblement National.
Oui, parce que elle a vu aussi la vie du mouvement, non seulement depuis qu'elle est née, parce qu'elle est quand même tombée dans la marmite quand elle était petite et pour cause, mais surtout quand elle était députée pendant 5 ans. Elle a vu à quel point il était difficile de faire vivre une ligne un peu différente, parfois dissonante au sein même du Rassemblement National. Rappelez-vous, à cette époque, il y avait ce numéro 2, Florian Philippot, qui était tenant d'une ligne plutôt social-étatiste, très axée sur le souverainisme plus que sur les questions identitaires, qui, elle, était beaucoup préemptée par Marion Maréchal. Et ces lignes cohabitaient peu ou prou au sein du parti. Et depuis, les deux sont partis d'eux-mêmes. Et du coup, Marine Le Pen, qui était déjà chef, mais qui se retrouve plus chef que jamais, ne fait pas face, en tout cas à l'intérieur, à une contestation qui serait incarnée par quelqu'un. Et ce que vient de dire Jean-Yves Camus est très juste, non seulement pour Marion Maréchal, mais pour tout autre cadre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun cadre au sein du Rassemblement National n'envisage d'affronter la présidente, comme l'avait fait un Bruno Gollnisch, on s'en souvient, quand il s'était agi de succéder à Jean-Marie Le Pen. Donc, elle restera la chef du parti, et même si elle se met en retrait pour des raisons de présidentielle, elle restera la numéro 1 du Rassemblement National dans tous les cas.
Nicolas Lebourg, parlez-nous un peu de ces... Alors, je sais pas si on peut parler de fronde, de contestation, ou de sécession, parfois, historiquement, au sein du mouvement d'extrême droite depuis sa création en France. C'est quelque chose de récurrent?
Alors, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'à la base, Jean-Marie Le Pen, c'est le seul homme dans l'histoire de l'extrême droite qui a été arrivé à fédérer tous les courants et à se poser comme arbitre. Et ça va durer jusqu'à la session de Bruno Maigret en 1999 que vous évoquiez. Et à partir de là, on n'a plus cet équilibre entre les tendances. Jean-Marie Le Pen le faisait bien. Il avait nommé un néo-païen et un national-catholique, par exemple, ensemble à la formation. C'est plus les tendances qui s'équilibrent avec un arbitre. Ça devient l'adhésion, la soumission à la famille Le Pen. Et c'est vrai que ça s'est considérablement encore accéléré avec Marine Le Pen, qui avait bénéficié de Bruno Gollnisch pendant son ascension, pour dire, vous voyez, c'est pas moi la dure, mais que maintenant, tous les sondages d'opinion depuis des années montrent que l'opinion considère que c'est elle la dure, c'est elle qui représente le Front National. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Yves, elle n'a pas d'autre choix, si elle est rationnelle, que d'être soutenue par le FN plutôt que la candidate du FN, et que ça explique pourquoi aussi Marion Maréchal Le Pen ne peut pas prendre le parti, et en fait, il n'y a pas tellement intérêt, parce que pour 2027, après le troisième échec de Marine Le Pen, il vaudrait mieux être soutenu par Debout la France, au Rassemblement National, etc., que d'être investi directement par le FN.
Marine Le Pen a écarté l'été dernier, au mois d'août, un certain nombre de cadres du parti, dont Nicolas Bay, qui ne fait plus partie de la commission d'investiture, et qui est considéré comme un proche de Marion Maréchal. Alors, je ne sais pas si on peut parler de purge à ce stade, Jean-Yves Camus, mais est-ce que ce qui s'est passé inquiète au sein du parti? Est-ce que les gens se disent, en appui de ce que vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas intérêt à y aller, quoi?
Une purge, c'est quelque chose de massif. Là, on a affaire à des cas individuels, avec effectivement quelqu'un qui représente, alors très proche de Marion Maréchal, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, non, représentant une sensibilité nettement identitaire, un tout petit peu plus national catholique que la moyenne, enfin sans tomber quand même dans le pilier de sacristie, et puis voilà, qui essaye de faire entendre sa différence. Et le véritable problème, c'est pas tellement qui essaye de faire entendre sa différence, c'est quelle différence il essaye de dénoncer. C'est le simple fait d'énoncer une différence, parce que effectivement, comme le disait Nicolas Lebourg, il y a eu une période où les enjeux idéologiques pesaient dans ce parti, où il y avait véritablement des lignes différentes qui arrivaient à se fédérer autour d'un homme et d'un projet. Et actuellement, c'est un petit peu au Rassemblement National, comme dans toutes les autres formations politiques. C'est-à-dire que le poids de l'idéologie disparaît, si vous voulez. On est dans la tactique, on est dans la conquête du pouvoir, mais quand il s'agit effectivement de mener le débat d'idées et de clasher sur des projets différents, il y a beaucoup moins de monde.
Louis Osalter, vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de concurrents ou de gens qui se proposent d'aller animer ce débat d'idées au sein du Rassemblement National.
Mais c'est presque un problème, en fait, parce que Marine Le Pen a changé le nom du Front National en Rassemblement National, et elle appelle au rassemblement sur tous les plateaux.
Elle rassemble qui, pour l'instant, d'ailleurs?
Pour l'instant, c'est son parti, et c'est un état-major qui est de plus en plus rétréci, parce que vous enlevez Florian Philippot, vous enlevez Marion Maréchal, ça date déjà de 2017. Maintenant, vous enlevez donc certaines personnalités intérieures au mouvement, en l'occurrence Nicolas Bay, comme vient de le dire Jean-Yves Camus, mais aussi Gilbert Collard, qui siégeait à cette commission d'investiture, qui n'y allait pas beaucoup, certes. Ça envoie quand même un signal à l'appareil du mouvement, d'un rétrécissement de quelques cadres autour de Marine Le Pen. À un moment où elle a un bon socle de premier tour, et n'importe quel candidat qui a une étiquette RN aujourd'hui est assuré de faire un bon score uniquement grâce à cette étiquette-là. Donc il y a un score, on l'a vu aux européennes encore, il y a un socle important pour le premier tour. Mais le problème de Marine Le Pen pour 2022, c'est de faire une majorité, c'est-à-dire de faire 50% plus 1. Et ça se fait en rassemblant, en ayant des alliés, et jamais le Rassemblement National ne s'est trouvé d'alliés avant un premier tour de présidentielle. C'est arrivé avec Nicolas Dupont-Aignan en 2017, mais c'était entre les deux tours et ça n'a pas eu un effet considérable. Et là, encore une fois, rebaptiser le parti Rassemblement, mais derrière se rétrécir en quelque sorte sur un petit cercle autour de la présidente du Rassemblement National, ça ne concrétise pas tellement le rassemblement dont on se réclame.
Nicolas Lebourg, le Rassemblement National, ex-Front National, n'a jamais eu d'allié, en fait.
Non, c'est un mouvement qui a un mal fou à s'allier. Alors, il y est arrivé dans les années 90 à passer des alliances. Et Bruno Gollnisch, dont on parlait tout à l'heure, qu'on présentait comme un dur, avait été un grand partisan de l'alliance avec les droites, en disant on n'a pas besoin d'exiger de leur part la préférence nationale, puisque c'est à l'échelle des régions. Non, on renvoie ça à une alliance nationale, mais à l'échelle régionale, ça n'existe pas. Donc, on peut s'allier avec les droites. Il y avait eu les députés Rassemblement National en 1986, avec des membres du CNI, etc. Il y a des moments où il y est arrivé, mais au fur et à mesure, c'est vrai que c'est un parti qui s'est complètement bunkerisé. Il s'est bunkerisé dans sa stratégie, il s'est bunkerisé dans son électorat, qui est souvent très captif, et idéologiquement, Jean-Yves Camus disait quelque chose de très juste, au fur et à mesure qu'il se bunkerisait, il perdait son identité. Dans les années 90, vous étiez militant du FN, il y avait une formation idéologique, vous alliez en camp d'été, on vous apprenait tous les théoriciens de l'extrême droite, le plus contradictoire. Aujourd'hui, vous êtes militant du Front National, vous recevez la mailing list interne du FN, vous avez des tweets des députés, et des vidéos en streaming, des passages à la télévision des principales figures. C'est le degré zéro de la formation idéologique. C'est vrai aussi pour les autres partis politiques.
C'est de la distribution d'éléments de langage, j'allais le dire, comme les autres partis politiques, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que le Front National, qui tient un discours comme quoi il est différent des autres, qu'il anti-système, qu'il peut avoir ses propres médias pour posséder un discours différent, vous envoie à la fin, quand vous en êtes un militant interne, vous envoie quoi? Eh ben, vous envoie des images de CNews. Il n'y a pas besoin de militer pour ça.
Jean-Yves Camus voulait ajouter quelque chose là-dessus.
Alors justement, ce qui est fascinant, c'est que du côté de Marion Maréchal, on essaye de promouvoir des idées, de promouvoir un logiciel, qu'on le fait avec des gens qui ont du talent, avec des intellectuels nationaux conservateurs qui ont du talent et du sérieux. Il y a un mensuel dont je trouve qu'il a du fond, en plus d'une belle forme qui s'appelle L'Incorrect, qui effectivement exprime cette sensibilité-là. Mais autant je trouve, moi, un grand intérêt à lire ces auteurs et à lire ce mensuel parce qu'il y a du débat d'idées et que c'est infiniment moderne dans la forme, autant, honnêtement, si vous arrivez avec L'Incorrect sous le bras au marché des Nains-Beaumont, vous êtes assez certain de ne pas en placer un. Voilà. Donc le véritable problème, c'est que même dans le cadre de l'union des droites que Marion Maréchal préconise, cette union des droites, elle a un socle sociologique qui est beaucoup trop étroit. La droite, c'est pas uniquement la droite bourgeoise néo-conservatrice. C'est aussi un socle parmi les classes populaires. Et moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, ni la tentative de formation qu'est l'ISEP, l'institut fondé par Marion Maréchal,
L'école de sciences politiques à Lyon,
voilà, qui est basée à Lyon, ni L'Incorrect, ni les quelques ouvrages qui naissent de cette sphère intellectuelle ne sont capables de rassembler une majorité.
Louis Osalter, la communication de Marine Le Pen en cette rentrée est un petit peu difficile à suivre. On a le sentiment qu'elle apparaît moins, ça doit être volontaire. Quelle est sa stratégie?
Alors, effectivement, il y a eu notamment sa rentrée à Fréjus, sa traditionnelle rentrée. Elle a fait un discours avec des classiques sur l'immigration, l'insécurité. Certes, la crise sanitaire l'handicapait parce qu'ils n'ont pas pu convier un seul militant à Fréjus. Donc, elle a parlé devant des cadres du parti qui, honnêtement, s'endormaient un peu à son discours qui était d'une facture très classique et qui ne la distinguait pas vraiment dans cette rentrée. Là, elle semble passer quand même à une autre stratégie plus personnelle où elle joue un peu plus la carte femme, en quelque sorte. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est déjà quelque chose qu'elle avait essayé en 2012, en 2017. On se rappelle de cette émission avec Karine Lemarchand qui faisait défiler l'intimité des candidats à la présidentielle et dans laquelle Marine Le Pen avait eu de bonnes audiences. Donc elle essaye un peu de répéter ce côté « je suis une femme politique, mais je suis aussi une femme tout court et je suis quelqu'un d'humain et pas seulement une incarnation politique ». Voilà un peu la stratégie qu'elle essaie de prendre à l'instant T. Mais de toute façon, c'est une période compliquée pour elle, par définition, parce que Marine Le Pen est candidate déclarée à l'élection présidentielle depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'elle s'est déclarée plus de 2 ans avant l'échéance. Et donc là, comme du coup elle étouffe d'un coup toute contestation dans sa famille politique, que le but de la manœuvre est évidemment de s'imposer en chef et que l'embryon d'une contestation n'émerge pas, là-dessus effectivement c'est le cas, elle doit gérer cette période très longue de pré-campagne où la campagne n'a pas commencé. Voilà, elle est dans un faux plat où la campagne n'a pas commencé. Et par ailleurs, les élections intermédiaires que sont les élections municipales n'ont pas du tout en fait ont donné des résultats assez mauvais si l'on accepte la victoire de Louis Alliot à Perpignan, qui a quand même masqué derrière des performances beaucoup moindres qu'aux dernières municipales. Et vous allez voir que pour les élections régionales, même si le RN peut toujours compter sur ce fameux socle de premier tour, il n'est pas du tout dit qu'il puisse remporter une région.
Je continue et on va en finir avec ces affaires de communication et de façon de se présenter. Est-ce que on avait vu des papiers, des portraits de Marine Le Pen dans Elle en 2017 notamment? Est-ce que il est vrai qu'elle envisage, alors qu'elle s'y était toujours refusée, de montrer sa famille, ses
oui,
enfants?
Oui, c'est une information qu'a sorti l'Express, notamment. Et oui, alors c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Alors qu'elle a 3 enfants, Marine Le Pen, ou alors elle les montrait de dos, très cachés. Donc voilà, c'est une réflexion qui est en cours au Rassemblement National.
Ouais. Jean-Yves Camus, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur le manque de formation idéologique. Comment est-ce que vous définiriez la ligne du Rassemblement National aujourd'hui? La ligne politique, c'est quoi?
La ligne, elle est souverainiste, sociale et identitaire. Elle est souverainiste parce que dans le logiciel, c'est difficile de plus dire frontiste, tout passe par la maîtrise des instruments de souveraineté. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, intellectuellement, ça se tient. Elle est sociale parce que Marine Le Pen se positionne comme la candidate du ni droite ni gauche, mais également du au-dessus et au-dessous, les élites qui dévoient l'intérêt général pour proposer aux Français des politiques qui vont contre leurs intérêts. C'est une ligne identitaire parce qu'il s'agit de réaffirmer qu'il y a un socle civilisationnel qui est plus uniquement un socle, si j'ose dire, franco-français. Il n'y a pas de définition très très claire de ce que c'est que l'identité, mais c'est au fond l'histoire de France, la civilisation européenne dans ses grandes lignes judéo-chrétiennes, dans un héritage immémorial qui dépasse la France. C'est plus soft sur la question de l'immigration, dans la mesure qu'il n'est plus aujourd'hui question de dire quand nous arriverons, ils partiront, ou de proposer l'inversion des flux migratoires. On est dans les flux migratoires zéro, tout simplement. Mais ça reste quand même, sur le curseur politique français, le parti politique qui est le plus dur sur cette question-là, qui est une question qui travaille les Français.
Mmh. Nicolas Lebourg, je sais que vous avez écrit là-dessus, est-ce que Louis Alliot a gagné la mairie de Perpignan sur cette ligne que vient de décrire Jean-Yves Camus ?
Non, justement, Louis Alliot, il a joué sa propre ligne, et c'est pour ça qu'il arrivait à avoir une majorité. Et c'est très intéressant, parce qu'il a fait une fusion des droites durant sa campagne, et il a eu une fusion des bureaux de vote, avec les bureaux de vote les plus riches de la ville, certains bureaux de vote très populaires. C'était une ligne moins souverainiste, plus libérale économiquement. Il y avait des moments où on croirait presque à un macroniste quand il parlait, quelque chose qui cherchait comme ça le conservatisme culturel, si vous voulez, un certain libéralisme économique, et puis une fibre sociale et populaire. Là, au premier conseil municipal, il a pris des décisions sur l'habitat indigne, par exemple. Donc, c'était vraiment cette ligne-là, et ça marchait très bien. Surtout, une question intéressante, c'était, à Perpignan, le Front National a toujours dit, si nous gagnons la mairie, ça deviendra la ville la plus sûre de France en 6 mois, 1 an, en 2 ans, selon les campagnes municipales. C'est une ville qui a de très gros problèmes de violence. Là, pour la première fois, il y avait des tracts avec une quinzaine de mesures très précises, chiffrées, organisées. Et on voit que ça a parlé aussi bien à certains quartiers très populaires qui ne votaient pas FN, mais où il y a des problèmes de fusillade et qui ont voté très fortement, 61% dans le bureau de vote, et certains quartiers très riches avec des villas sécurisées qui se sont dit, voilà un programme concret pour résoudre le problème. Donc là, il y a une ligne qui est une ligne intéressante parce qu'elle ne tombe pas dans l'ornière nationale catholique qu'évoquait Jean-Yves Camus, qui effectivement parle à 2% de la population. Elle ne tombe pas non plus dans l'excès anti-immigré qui va rebuter une partie de la population. Il est arrivé à un vrai équilibre des droites.
Mmh. Louis Osalter, ces séries de propositions chiffrées, travaillées, comme l'expliquait Nicolas Lebourg, qui ont été faites par Louis Alliot à Perpignan, est-ce que c'est justement, et on revient toujours là-dessus, hein, on parle toujours, est-ce que c'est justement l'inverse du débat de 2017?
Oui, et en fait, on retombe sur la question de la crédibilité qui est centrale. Parce que non seulement la ligne de Marine Le Pen est assez claire, Jean-Yves Camus l'a résumé, il y a parfois des inflexions. Par exemple, elle insiste beaucoup moins sur la sortie de l'euro maintenant parce qu'elle a compris que c'était pas c'est plus un moteur d'inquiétude envers l'électorat pour l'électorat qu'elle cible qu'un véritable moteur de motivation électorale. Mais à quelques inflexions près, les fondamentaux du RN, non seulement ils sont assez clairs pour Marine Le Pen qui les martèle, mais en plus ils sont identifiés par l'opinion publique. Autre élément, si vous vous référez par exemple au sondage d'Ipsos sur les fractures françaises qui est paru en septembre, qui balayait un champ très vaste de questions de société, vous voyez que les idées que défend Marine Le Pen sont en fait assez largement partagées dans le pays. Ou en tout cas, si on pose des questions sur l'immigration, la peine de mort, la sécurité, tout ce qui est les fondamentaux du RN, vous voyez dans le pays plutôt une colère un peu sourde sur ces sujets-là, qui devrait profiter à Marine Le Pen. Or, ça ne lui profite pas tant que ça, parce qu'on retombe à nouveau sur la question de la crédibilité. C'était au cœur effectivement de ce fameux débat de 2017 devant le... Voilà, où la plupart des Français ont bien vu qu'elle n'était pas au niveau sur les chiffres, et notamment sur l'économie. Et ça, c'est la critique qui est faite aussi en interne, typiquement par certains cadres, et en externe, par une Marion Maréchal. Parce que si une Marion Maréchal ne critiquera jamais frontalement et publiquement sa tante, elle n'en pense pas moins, je peux vous dire qu'elle n'en pense pas moins, sur la crédibilité du Rassemblement National. Donc, si vous voulez, il y a un vrai paradoxe entre le potentiel électoral et la force des idées assez simples que porte le Rassemblement National, leur propagation dans le pays, et le potentiel de crédibilité et de ressources humaines, j'allais dire, d'un parti qui est dirigé finalement par un nombre assez réduit de personnes, qui dispose pas de cadres et de connaissances plus précises que ça dans l'appareil d'État, qui n'a pas une armée de hauts fonctionnaires prêts à se mettre à son service au cas où il arriverait au pouvoir. Là-dessus, le travail est quasiment à zéro. Il y a un corpus idéologique qui est plutôt clair, mais sur la crédibilité, ça ne l'est pas. D'où cette question que doivent se poser en fait les électeurs tentés par Marine Le Pen, et qui sûrement rebute beaucoup d'entre eux, qui est: je partage les idées du RN, mais il n'est pas en capacité d'exercer le pouvoir si jamais je lui confiais. Je pense que c'est le raisonnement que font beaucoup de gens qui seraient tentés.
Il y a un vrai doute de ce point de vue, Jean-Yves Camus. Il n'y a personne pour exercer le pouvoir au Front National, j'ai fourché, au Rassemblement National. Et donc, c'est pas la peine de voter pour Marine Le Pen. C'est ça qui est dans la tête des électeurs?
Non, il y a un doute. Le débat de l'entre-deux-tours de 2017 a laissé une trace, et Marine Le Pen elle-même en a convenu, en avouant qu'elle avait, ce jour-là, raté ce débat. Maintenant, c'est quelque chose qu'en principe, on ne rate pas deux fois. On peut se faire coacher, on peut apprendre de ses erreurs. Je pense que elle aura à cœur de le faire, mais ça suffit pas nécessairement pour assurer. Maintenant, faut voir que dans d'autres pays, des gens qui ont effectivement, je pense en particulier à Bart De Wever avec la nouvelle alliance flamande en Belgique, ont des gens qui ont un bagage culturel, qui ont un bagage intellectuel solide, qui ont des propositions chiffrées, j'allais dire millimétrées, qui ont été au pouvoir, se voient aujourd'hui dépassés dans les sondages et probablement dans les urnes, par un Vlaams Belang qui, lui, n'a pas l'expérience du pouvoir, se soucie absolument pas de chiffrer quoi que ce soit, qui fait une campagne maximaliste, à fond, qui, pour l'instant, semble lui profiter beaucoup dans les sondages. Donc, est-ce que c'est véritablement la crédibilité gouvernementale que cherchent les électeurs frontistes? C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Chez certains, c'est devenu effectivement un vote d'habitude. Chez d'autres, c'est un vote de colère.
Est-ce qu'on est un peu en train de revenir à l'époque Jean-Marie Le Pen, hein, qui aimait bien faire peur, mais qui, enfin, on l'avait vu entre les deux tours en 2002, il n'avait pas tellement envie d'exercer le pouvoir.
Non, mais moi je pense que Marine Le Pen a envie d'exercer le pouvoir. Le problème, c'est qu'on est dans une époque où une partie des Français se disent que finalement, la crédibilité technicienne ou technocratique n'est plus ce qui doit déterminer le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la désespérance est telle, la colère est telle, qu'une portion des électeurs, si la crise s'aggrave, que ce soit la crise sanitaire ou son corollaire, qui va être la crise économique, si elle est plus forte que prévu, un certain nombre des électeurs se diront, après tout, à quoi bon? Les solutions techniciennes, elles ont échoué, qu'elles soient de droite ou de gauche, donc, vaut le tout pour le tout. Renversons la table pour de bon.
Nicolas Lebourg, est-ce que Marion Maréchal peut incarner quelque chose de nouveau qui irait dans ce sens-là pour les électeurs du Rassemblement National?
Je vais faire une réponse de Normand. Oui et non, parce qu'en fait, si je joins ce que viennent de dire nos deux amis, il y a un problème qui est la stratégie de Marine Le Pen a toujours été « nous sommes majoritaires dans les sondages », effectivement. Au moment où elle est très critique contre l'Union Européenne, les sondages sont très mal sur l'Union Européenne, etc. Elle a toujours fait le pari de cette addition des opinions enregistrées par les sondages, effectivement, sur la peine de mort, sur l'immigration, de se dire « nos idées sont majoritaires ». Le problème, c'est qu'elle a toujours confondu l'opinion et l'électorat. Le sondage, il enregistre une opinion. L'électorat, il y a plein de gens qui expriment une opinion qui ne vont jamais aux urnes. La seule classe d'âge qui va systématiquement voter à plus de 50%, c'est les plus de 65 ans. Donc quand vous leur faites peur avec la question de l'euro, eh ben vous perdez des voix. Alors dans l'opinion, vous aviez des voix gagnées, mais c'est des jeunes qui ne vont pas voter. Les précaires vont beaucoup moins voter que les gens qui gagnent pas mal d'argent. Et le Front National, il est très fort sur les classes populaires du secteur privé.
C'est le parti le plus jeune d'ailleurs, hein, au niveau de son électorat.
Il est très bon là-dessus, sur les jeunes, sur les précaires, sur les classes populaires du secteur privé, il est très bon. Le problème, c'est que ça vote beaucoup moins. ces catégories-là. Et donc, il y a toujours ce distinguo entre l'opinion, les sondages qui vont dans le sens du Front National et les résultats électoraux. Tant qu'ils resteront sur cette chimère, effectivement, ils perdront leur second tour. Marion Maréchal Le Pen a des qualités, effectivement, Marion Maréchal, qu'elle me pardonne, Marion Maréchal a des qualités personnelles pour pouvoir incarner une ligne, en se défaisant de la question catholique qui en France, une fois de plus, Madame Boutin, M. De Villiers l'ont montré, ça vaut 2% une candidature nationale catholique. On est dans un pays où il y a plus de 60% des gens qui sont agnostiques ou athées quand on les sonde. Donc ça, c'est quelque chose qui serait un boulet. Elle peut le garder juste de manière identitaire. Ce qu'elle peut incarner, c'est un angle au milieu des droites. Être effectivement contre l'immigration, pour une économie plus libérale, accepter le jeu de l'Union européenne tout en la critiquant, pour arriver à séduire à la fois l'électorat ex-fioniste, l'électorat central, libéral, autoritaire. On a bien vu, là aussi dans les enquêtes du CEVIPOF, qu'il y a toute une partie de l'électorat centriste qui en fait est très autoritaire, dont ni droite ni gauche n'est pas tellement centriste, mais n'est pas si loin que ça parfois de l'extrême droite. Là, il y a une carte à jouer avec grande finesse. Et si, enfin, il y avait des gens au Front National qui étaient des stratèges, qui ne confondaient pas l'opinion et l'électorat.
Louis Osalter, ce rapprochement entre les droites, enfin la droite ou ce qu'il en reste, et l'extrême droite, est-ce qu'il est à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des alliances, des transfuges? Est-ce que, pour reprendre un terme qui est utilisé de l'autre côté du spectre de droite, est-ce que la poutre travaille entre la droite de droite et l'extrême droite?
Oui, mais ça fait très longtemps qu'elle travaille en réalité. Et moi, je pense que pour l'instant, les expériences sont très peu concluantes, à part quelques exemples municipaux. Si vous pensez à Robert Ménard à Béziers, effectivement, il a en réalité cannibalisé la droite qui était faiblissante chez lui et l'a remplacée par lui-même. Si on parle de Louis Alluh à Perpignan, c'est pareil, il gagne à droite en faisant une campagne de notables. Mais au niveau national, le problème, c'est qu'en fait, toutes ces expériences de rapprochement se terminent entre droite et extrême droite, se terminent souvent par un aboutissement très conservateur et très identitaire, autrement dit très extrémiste. Et on l'a vu à la convention de la droite qu'avait initié des proches de Marion Maréchal il y a un an de cela, en voulant faire parler des gens qui seraient des deux rives et qui se rapprocheraient. En réalité, ce qu'on retient de cette convention, c'est le discours très extrême d'Éric Zemmour sur l'islam et l'immigration, pour lequel il a été condamné la semaine dernière. Donc, vous voyez que ce genre d'expérience qui se tient souvent dans des salons parisiens entre gens d'un certain niveau social se termine souvent par des considérations très extrêmes et qui en réalité ne parlent pas beaucoup à l'électorat. Et ça, c'est plus la force de Marine Le Pen en réalité, c'est que elle, pour le coup, même si effectivement elle manque de crédibilité, elle manque de stratège dans son équipe, au moins elle a un électorat populaire, c'est-à-dire qu'elle arrive à parler aux gens. Et moi, je ne suis pas certain qu'une ligne telle que la définirait une Marion Maréchal ou ses proches parviendrait à percoler, comme on dit, avec un électorat. Je vous rappelle le score d'un François-Xavier Bellamy aux européennes de 8%. Alors, c'est pas uniquement lié à lui. Il paye le manque de crédibilité de la droite, cette droite prise en étau entre Macron et Le Pen, mais le fait de développer une ligne libérale conservatrice, dirions-nous, et un petit peu identitaire, ne rencontre pas en fait forcément les préoccupations premières de l'électorat. Marine Le Pen a plus de force là-dessus, c'est ce qui fait son socle. Son désaccord avec sa nièce, en réalité, porte plus sur la stratégie. À qui parler pour atteindre les fameux 50+, hein. Marion Maréchal pense qu'il faut parler à la droite, à ceux qui votaient avant pour un Sarkozy, par exemple, et Marine Le Pen pense qu'il faut parler un peu plus à la gauche, et on a vu comment elle a essayé de recruter, entre guillemets, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour en 2017, et ça n'a pas marché.
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, selon vous, Jean-Yves Camus ?
Ce qui fonctionne le mieux, c'est incontestablement Marine Le Pen sur le court terme, c'est-à-dire sur le terme électoral. Ensuite, si Marion Maréchal joue le coup, si je puis dire, pour dans 20 ans, pour la percolation à long terme d'idées qui vont infuser et qui vont passer d'elle à la droite mainstream, enfin aujourd'hui mainstream, oui, sans doute. Mais je veux dire, la nouvelle droite a été fondée en 1968 et certains de ces thèmes commencent seulement à véritablement porter leurs fruits.
Est-ce que, très rapidement en fait, est-ce qu'elle est, et je reste avec vous Louis Osalter, est-ce que Marine Le Pen est gênée par la loi contre le séparatisme qui a été présentée par Emmanuel Macron? Est-ce que ça lui enlève une partie de ses arguments?
C'est un peu à double tranchant. L'argument qu'utilise Marine Le Pen en général est que Emmanuel Macron en parle, enfin elle l'a utilisé contre d'autres adversaires que Macron, que ce n'est pas parce que quelqu'un parle des mêmes sujets que le RN qu'il va mettre en place la politique que veut le le Rassemblement National. Ça, c'est l'argument qu'elle utilisait assez souvent. Je l'ai senti un peu plus gênée sur le discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière, ne serait-ce que parce que elle a salué déjà des bonnes mesures, ce qui est très rare au RN, et elle est revenue au sujet de l'immigration en disant, mais par contre, il parle pas assez d'immigration, ce qui montre le retour à un réflexe assez classique et basique au RN.
Merci Louis Osalter, merci à vous Nicolas Lebourg également, et à vous Jean-Yves Camus d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, avec Philippe Le Caplain. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.